9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
C'est que le sommeil, c'est la moitié de la santé. Eh bien, on va en parler jusqu'à 10h ce matin avec mon invité Clémence Peix-Lavallée. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes sophrologue de formation scientifique et vous êtes spécialiste du sommeil. Hein. Vous dispensez des formations à des sophrologues, mais en entreprise également. Et vous avez écrit un livre qui est devenu un best-seller sur le sujet qui s'appelle « Bien dormir sans médicaments » aux éditions Odile Jacob. Alors, j'ai appris des choses dans votre livre, mais énormément. J'aimerais savoir pourquoi on s'endort toujours du côté où la narine est bouchée.
Non, parce que c'est effectivement, on va avoir une bascule du système nerveux autonome entre le sympathique et le parasympathique. Et quand on s'endort, il va y avoir une pression qui va se mettre en place. Et puis, forcément, l'air qui est dégagé, qui va nous permettre de bien respirer, va être sur la narine supérieure. Donc, et quand on va se retourner, on va avoir la narine qui va se reboucher de l'autre côté. Et ça va faire ainsi un cycle qui va pouvoir basculer le système nerveux autonome, qui est très important parce qu'il permet de réguler l'activité cardiaque, la tension artérielle. Ce système nerveux autonome va réguler tous nos organes, le fonctionnement de nos organes vitaux. Donc pendant la nuit, ça participe à la régénération de notre système nerveux autonome.
Alors, évidemment qu'on n'y fait pas attention, mais ce soir, vous y ferez attention quand vous endormirez. Ouais. Tiens, je m'endors du côté où la narine est bouchée. Ce qu'on appelle un rythme nasal ultradien.
Exactement.
Bien. Alors, on va essayer de dire des choses qu'on n'a pas souvent dites sur le sommeil, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qu'on raconte depuis des années, qui dordine, dormir d'un sommeil de plomb. La plupart des gens qui s'endorment sans problème ne peuvent pas comprendre les difficultés de ceux qui n'y arrivent pas.
Oui.
Et à quel point c'est compliqué de ne pas dormir.
On pourrait même dire que quand je fais quand on partage le sommeil avec les gens autour de soi, il y en a qui disent adorer dormir et puis d'autres qui disent mais comment tu peux trouver du plaisir à dormir? Pour moi, c'est un cauchemar depuis toujours ou depuis 10 ans ou depuis 20 ans. Donc on va avoir vraiment deux catégories de population. Il y a ceux qui adorent dormir en fin de compte quand on n'a pas de problème et qu'on y a trouvé un bien.
Mais qu'ils ne savent pas en fait. Ils ne savent pas à quel point ils ont de la chance.
Ah, c'est même, on dit, une jouissance de dormir parce que quand on glisse dans ce toboggan du sommeil, on se laisse aller. Il y a toutes les sensations corporelles qui reviennent à l'intérieur et on se sent bien à l'intérieur de soi. Et puis ceux qui ont des difficultés de sommeil, en fin de compte, c'est comme s'ils gardaient les volets ouverts, ils restent à l'extérieur de soi, ils n'ont plus accès à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et donc, ben, la vie continue, enfin en tout cas non, puisqu'il fait nuit et que la vie s'arrête autour, on se retrouve devant un vide existentiel, quelque chose qui est assez angoissant d'ailleurs, et les angoisses montent à ce moment-là.
Alors le sommeil ne vient pas quand on le décide, figurez-vous que c'est le cerveau qui décide.
Eh oui, c'est le cerveau et le rythme veille-sommeil qui est régulé par la mélatonine, cette hormone qui est plutôt une hormone de veille-sommeil. On l'appelle traditionnellement ou en tout cas populairement l'hormone du sommeil. C'est pas celle qui nous fait dormir mais c'est celle qui nous indique quand il est temps d'aller au lit. Et pour qu'elle se manifeste, il faut être dans l'obscurité. Donc tout simplement le coucher du soleil va permettre de commencer à libérer la mélatonine et avec la pression de sommeil accumulée tout au long de la journée, la pression de fatigue, on va avoir envie d'aller dormir. Donc, on ne dort pas quand on veut. Il y a des portes d'entrée du sommeil, toutes les 90 minutes, qui sont détectées à partir de l'heure du lever. Et là, dans la journée, on ne le sent pas, puisque la mélatonine n'est pas présente, puisqu'il faut de l'obscurité pour qu'elle se libère. Et puis, à partir de la coucher du soleil, avec l'associé avec mélatonine, ce rythme de 90 minutes va se faire entendre de plus en plus souvent. Et donc, ça veut donc dire que toutes les 90 minutes, j'ai une porte d'entrée du sommeil. Donc, je ne dors pas quand je veux. Quand je décide, tiens, il est 10h30, je vais dormir. Je vais sentir à l'intérieur de moi cette manifestation corporelle qui me dit, mon train du sommeil arrive, il faut que j'aille au lit.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le rythme circadien.
Oui.
Mais c'est important parce qu'on en parle de plus en plus de ce fameux rythme circadien, notamment pour les rythmes de travail, c'est-à-dire que les gens seraient plus efficaces pour travailler jusqu'à midi, 13h, 14h, et puis après il y a une baisse de vigilance.
Oui.
Mais on étudie beaucoup.
Oh, c'est vraiment, on se rend compte enfin que le rythme biologique existe, la chronobiologie dont on nous parlait un peu d'une façon ludique dans les années 70-80, en fin de compte c'est une vraie réalité, que ce soit pour le fonctionnement des organes vitaux, le moment de manger, le moment de dormir, le moment d'avoir une activité et même le moment de prendre ses médicaments. Donc ce rythme circadien c'est circa dièse, c'est à peu près 24 heures. Il va être pour certains sur 24,2 heures et d'autres 23,8 heures. Pour certains le temps passe plus vite que d'autres, on pourrait dire. Et on va avoir effectivement cette manifestation qui va être propre à soi. Elle est génétique, hein, ce rythme il est génétique, il est déterminé à la naissance. Et donc c'est intéressant de savoir, donc si on on est plutôt petit, moyen, grand dormeur aussi, ça va nous indiquer qu'on va pouvoir avoir un...
Alors, petit dormeur, c'est moins de 6 heures. Moyen dormeur, c'est entre 7 et 8. Et gros dormeur, c'est au-delà de 9 heures.
Oui. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les petits dormeurs, c'est 10% de la population. C'est 6 heures, c'est pas 4 heures, hein, je le précise. Pourtant, 30% des Français déclarent dormir moins de 6 heures par nuit. Donc, ça veut dire que 20% sont dans l'illusion de leurs besoins. Et c'est ça le problème.
Non, mais ils vous disent, je suis un petit dormeur. Et moi, 4 heures, ça me suffit.
Oui. Et là, c'est pas possible.
Comment ça, c'est pas possible?
Non, c'est pas possible.
Ils le vivent tous les jours, ces gens-là.
Oui, ils le vivent tous les jours et sans sentir qu'à l'intérieur, il y a un vieillissement précoce, il y a une altération des mécanismes de réparation cellulaire, immunitaire. Et effectivement, il va y avoir de la fatigue accumulée. C'est ce qu'on appelle une dette chronique de fatigue. Une dette chronique de sommeil.
Pourtant, souvent, c'est pas des gens qui sont fatigués. C'est même des gens qui sont rarement fatigués.
Oui, c'est même des gens qui sont dans l'hyperexcitation en permanence.
Ah, ça c'est vrai.
Et donc, ils ne sentent plus les signes du sommeil. On se reconnaît.
Ah ouais, j'en ai en face de moi qui fonctionne beaucoup à l'énergie. Et paradoxalement, ce sont des gens quand ils font une grasse matinée. Alors, ils sont dans un seau. Hein. Zéro énergie, ils se traînent.
Oui, alors la grasse matinée, c'est le grand piège. Hein. La grasse matinée, sauf pour les lève-tards, et effectivement, dans ce cas-là, ils sont dans leur chronotype. Enfin, quand je parle grasse matinée...
On va revenir sur la grasse matinée, parce que on vous embête avec un dernier concept, c'est celui de chronotype.
Ouais.
Donc ça, le chronotype, c'est la base. Donc on a tous un chronotype. Alors, à quoi ça sert de savoir ce que c'est et de connaître nos chronotypes?
Alors, quand on est dans son chronotype, on optimise tout le bon fonctionnement de son corps et de son cerveau. Donc, un sportif va être absolument attentif à son chronotype. Quelqu'un qui veut faire la performance au travail, la performance, quand je parle de performance, ça peut être physique, émotionnelle ou psychique, mentale, concentration. Maintenant, tous nos métiers nous demandent de l'attention opérationnelle à la tâche, de la concentration. C'est de la performance. Ça consomme de l'énergie au niveau du cerveau. Le chronotype, c'est ce qui va nous permettre de définir le début de notre horloge biologique. Et tous les matins, on le remet à jour.
Donc, c'est le réglage de base.
C'est le réglage de base.
Et chacun fonctionne sur son propre chronotype.
Oui, il est génétique. Donc, on ne peut pas changer de chronotype au cours de sa vie. C'est souvent intéressant de se rappeler quel était son chronotype quand on était enfant, parce que ça nous permet à ce moment-là de savoir que même si maintenant je me lève tôt, peut-être qu'enfant je me lève tard. Comment je sais quel est mon chronotype? Vous le savez, Philippe?
Il y a un test dans votre livre.
Ouais. Et puis, si on n'a pas...
De matinalité-vespéralité.
Oui, ça c'est le test officiel.
Bah oui, mais ça permet de savoir...
Et si je suis chez moi, comment je fais? J'essaye de me rappeler. Quand j'étais enfant, quand je me levais, est-ce que j'avais faim ou pas au petit déjeuner? Si j'avais pas faim et que j'avais du mal à m'habiller, j'étais un peu la tête encore, j'avais envie de continuer mon sommeil, c'est que j'étais pas dans mon chronotype. Quelqu'un qui est dans son chronotype, il se lève. Il est au taquet, il est de bonne humeur, il a faim, il est concentré, il papote, il emmerde même peut-être un peu les autres parce qu'il va en relation avec les autres. Celui qui n'est pas dans son chronotype, il n'a qu'une envie, son cerveau a encore envie de continuer sa nuit, de finir son cycle de sommeil. Et donc, on va pouvoir voir qu'on peut avoir des enfants qui sont différents. Alors, comme les parents, mais parce que c'est génétique, mais ce que je veux dire, je peux avoir une père et un mère avec des chronotypes différents et les enfants aussi. Donc,
un chronotype, par exemple, c'est d'avoir si on est matinal. Voilà, donc il y a plusieurs degrés de matinale. On est matinale externe ou matinale simple.
Oui.
Donc ça veut dire que matinale, ça veut dire qu'on...
Extrême. Un matinal extrême, c'est quelqu'un qui va se lever vers 5h30, 6h du matin. Cette personne va me dire, j'arrive plus à dormir, faut me donner un somnifère. Enfin, va demander au médecin de donner un somnifère. C'est pas bon parce qu'il est dans son chronotype. Seulement, il faut qu'il se lève à 5h30.
Donc ça, c'est les personnes que vous dites, dont vous dites qu'elles sont au taquet dès le matin. Ouais. 5h30, la journée peut commencer...
C'est très bien.
Très bien.
Vous savez pourquoi c'est dû à ces chronotypes? Parce que dans notre société archaïque, autour du feu, on pourrait dire, il y avait besoin de tous ces chronotypes pour protéger la communauté. Celui qui se lève très tôt le matin, il prépare le feu, c'est 10% de la population. Hein. Et puis, la majorité vont être un chronotype normal, qui va vivre, on est des animaux, en tout cas, des êtres humains, des mammifères diurnes, et pour faire vivre la journée, pour partir à la chasse, à la
cueillette. Normal, c'est ceux qui émergent vers quelle heure?
C'est à peu près 6h30, 7h du matin. Et puis après, je parle pour notre continent, notre fuseau horaire, parce que là je reviens à la Réunion, l'île Maurice, et eux ils sont encore plus tôt que nous.
Ouais.
Hein, ça dépend avec le lever du soleil.
Parce qu'effectivement, le jour, la nuit tombe plus tôt. Donc.
Exactement. Et puis ceux qui sont couchent tard, on appelle ça les gardiens du feu. C'est ceux qui étaient capables, sans que ça leur coûte, Donc c'est à peine 10% de la population, ils étaient capables d'aller alimenter le feu pendant la nuit et de protéger le groupe ainsi, garder le feu pour protéger le groupe. Donc on voit qu'on a besoin de tous les chronotypes. Il n'y a pas un bon chronotype. Il y a besoin, dans notre communauté, dans notre société, de tous les chronotypes. Mais il faut travailler et utiliser son propre chronotype. On ne va pas conseiller à quelqu'un qui a un chronotype lève tôt d'aller faire du service en hôtellerie en couche tard. Il y a un dysfonctionnement. On ne va pas proposer à quelqu'un qui va faire une émission de télé, de radio comme vous, peut-être très tôt le matin, d'avoir un chronotype tard. On va essayer de caler son activité. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas pris en compte dans notre société.
Mais non, un gamin, regardez, les gamins, on leur demande d'aller à l'école tous à la même heure. Il y a des matins, il y a des gamins qui, clairement, le matin, vous voyez qu'ils n'ont pas fait leur nuit.
Oui, effectivement. Et dans ce cas-là, on le sait, dans les statistiques, ils ont évidemment moins de chances de réussir, entre guillemets. Ça ne veut pas dire qu'ils sont... Ils ont les mêmes capacités, sauf qu'on n'utilise pas leur capacité au bon moment. Leur capacité d'attention n'est pas fraîche à 8h du matin. Elle va être fraîche à 9h30, 10h. Donc il y a 1h30 du matin qui, pour eux, c'est dans le coltard. Et ça, on le sait. C'est des enfants qui sont d'un chronotype lève-tard, on ne peut pas changer. Ils ne vont pas être frais du cerveau dès le matin au réveil. Ils n'auront pas faim. Donc effectivement, à ce moment-là, la petite collation peut être utile vers 9h30. Mais avant, de toute façon, les enzymes digestives ne sont pas prêtes. Il faut savoir qu'il n'y a pas de salive, il n'y a pas d'enzymes digestives qui sont prêtes, donc vous l'obligez à manger, ça lui reste sur le ventre, et il vous dit, j'ai mal au cœur toute la matinée si tu m'obliges à manger. Donc pourtant, il va falloir qu'il mange, mais dans son chronotype.
Donc, malheureusement, dans notre société, on ne respecte pas les chronotypes, c'est tout le monde pareil, en tout cas jusqu'à un certain âge, et vous dites que de toute façon, il vaut mieux, à un moment donné, réintégrer son chronotype, donc choisir une profession et des horaires qui sont en phase avec la façon dont on fonctionne.
Ça, ce serait l'idéal, mais bon, on ne vit pas dans une société idéale, mais dans la réalité, en tout cas, ça peut permettre de comprendre. Quand on a un enfant qui est lève-tard ou quand soi-même on est lève-tard et qu'on nous demande une réunion à 6h, 7h du matin, on sait que ça va nous coûter très cher en énergie. Et on va peut-être mettre en place à ce moment-là des stratégies pour pouvoir faire monter son énergie. Et en même temps, compenser la fatigue que ça va accumuler. Parce que c'est comme ça coûte plus cher en énergie, ça veut donc dire que je vais avoir des sensations de fatigue plus importantes. Et je vais apprendre à les écouter. Alors qu'en général, on se force un peu et au bout d'un moment, on donne l'information à son corps de ne plus... il donne le signal, mais on n'entend plus les signaux du corps qui disent stop, c'est plus possible, jusqu'à ce qu'on tombe malade.
Bon, une fois qu'on a son chronotype, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à l'horaire de coucher ?
Alors, l'horaire du coucher, elle est définie par l'accumulation de fatigue. Donc, je ne décide pas quand je veux de me coucher. C'est une fois que j'ai trouvé mon heure de lever, et elle doit être fixe tous les matins, week-end compris, vacances comprises. On ne fait pas de jet lag. On ne fait pas cette fameuse grasse matinée qui fait que je me lève tous les matins à 7h et puis le samedi ou le dimanche, je vais me lever à 11h. Là, j'appelle ça un Paris-New York.
Parce que le sommeil, c'est quelque chose de fragile et de régulier et que si vous ne respectez pas vos rythmes, vous êtes décalé.
Exactement. Et donc, le lundi matin, ça va être repénible à revenir sur l'horaire avant. C'est comme si je me faisais mon qui ferait Paris-New York tous les week-ends. C'est épuisant. Donc, parce qu'en changeant mon heure levée, je donne l'information à mon corps de changer toute la programmation cellulaire immunitaire, tout le fonctionnement de mes organes vitaux. Ça, c'est pour ça que ça coûte cher en énergie. Donc, une fois que j'ai fixé mon heure de levée tous les matins à la même heure, je vais accumuler une certaine fatigue dans la journée. Et il faut en accumuler, pas de l'activité physique, de l'activité sociale, de l'activité relationnelle. Et à la fin de la journée, j'aurai une pression de fatigue. Cette pression de fatigue... avec l'hormone de la mélatonine qui m'indique que c'est le moment d'aller que c'est la nuit, je vais sentir ce fameux train du sommeil, on va revenir dessus, et qui va me dire il est temps d'aller au lit. Et c'est pas moi qui choisis, c'est pas parce que mon programme télé ou ma série est finie que je vais au lit, c'est quelquefois mon sensation de fatigue vient pendant la série, pendant le programme télé. Il y en a même qui s'endorment dans le canapé, on connaît tous ça.
Et qui ne finissent jamais un programme.
Ils luttent,
et bim, ils s'endorment devant le programme.
Et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne croit, en tout cas j'entends beaucoup ça au cabinet. Et puis, ça veut dire que leur train du sommeil était venu, la pression de fatigue était là, et c'est ça qu'ils auraient dû entendre pour aller au lit, parce que sommeil égale canapé, c'est pas la bonne association. La bonne association, c'est lit égale sommeil. Et ces personnes qui s'endorment sur le canapé, en général, quand ils reviennent au lit, elles n'ont plus envie de dormir. Elles ont levé une pression de
fatigue. Comme par hasard, bim, vous êtes dans votre lit, et là, c'est trop tard.
Et donc, tout simplement parce qu'elles ont levé une pression de fatigue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de fatigue. Elles ont pendant une heure dormi sur le canapé, donc elles ont levé la pression de fatigue et elles arrivent au lit. Et là, lit égale insomnie. Et on fait cette fameuse association qui est toxique pour le cerveau et le corps, qui est très angoissante parce que la nuit suivante, on se dit « Oh, la prochaine fois que je vais aller au lit, encore une fois, je ne vais pas dormir. » Et ça devient très désagréable. Enfin, même plus très, très anxiogène, puisque effectivement, je programme mon cerveau déjà dans l'anxiété de ne pas pouvoir dormir dans mon lit la nuit suivante. Et là, la boucle est là.
Et là, le cerveau est d'accord avec vous, vous ne dormirez pas. Donc, on revient sur l'histoire de la grasse matinée, parce que le week-end, souvent, pour nous qui avons des dévies où on se lève tôt, ben, on se dit, le week-end, je vais peut-être dormir un peu plus. Quelle est, on va dire, la bonne durée d'une grasse matinée pour que ça désorganise pas tout?
Oui, il se peut qu'effectivement, dans la semaine, je n'ai pas été sur mon chronotype. Et dans ce cas-là, j'ai accumulé une dette de fatigue. Mmh. Ça, c'est quand même le plus fréquent qu'on va voir dans nos sociétés de travail. Et donc, je vais pouvoir aller une heure et demie plus loin. Un cycle de plus. Mais je ne vais pas faire deux cycles de plus. Mmh. Deux cycles de plus, c'est deux fois une heure et demie. Donc, c'est un petit décalage horaire.
Quelqu'un qui se lève à 4h30 ou 5h pour aller travailler, donc il peut faire une grasse matinée jusqu'à 6h30.
Oui, tout à fait. Mais par contre, il va ajouter une sieste.
Oh, mais c'est pas glamour. Si vous dites, j'ai fait la grasse matinée jusqu'à 6h30. Même la boulangerie, elle est pas ouverte le dimanche.
Oui, je sais. Ce qui est pas glamour, c'est d'être levé à 4h30 alors que c'était pas son chronotype. C'est la réalité. Il faut revenir à la source, à l'origine de la problématique.
Bon, une grasse matinée, c'est quoi? C'est une heure de plus, on va dire.
Ouais, une heure et demie. On peut rajouter un cycle de sommeil. On va pas faire deux cycles de sommeil parce que dans ce cas-là, on donne l'information qu'il faut décaler son horloge biologique, ce fameux rythme circadien. Et là, ça devient, ça coûte cher, oui. Ça coûte très cher. Et lundi, on va revenir en arrière. C'est pas possible.
Et c'est pour ça que le lundi, tout le monde est crevé.
Ou que les enfants sont pas capables de se concentrer à l'école. Quand on a laissé les enfants faire la grasse mat, pensant qu'ils vont récupérer la dette de sommeil, je dis aux parents, non, il va falloir les coucher plus tôt en semaine. Parce que c'est vrai que de nos jours, notre société nous invite plutôt à dîner tard, à profiter des enfants tard, parce qu'on rentre tard du travail. On a tous ce problème-là. Et du coup, l'enfant, moi j'ai plein d'enfants au cabinet en CM2, ils se couchent à 22h, 23h. Normalement, c'est 7h30, 8h du soir. Mais on n'est pas rentré.
Mais plus personne ne couche les enfants à 7h30,
oui,
8h du soir.
Mais la différence, c'est que...
Ils appellent le 119, là, les gosses, si vous leur dites. Ma mère, elle m'oblige à me coucher à 19h30.
Ah oui, oui. Mais la difficulté, c'est que depuis 10 millénaires, notre rythme biologique n'a pas changé et notre besoin de sommeil n'a pas changé. Ouais. Et la capacité d'optimiser son sommeil n'a pas changé. Je vous répète, on est des mammifères diurnes pour travailler en journée et dormir dès qu'il y a l'obscurité.
Alors, vous avez écrit « Bien dormir sans médicaments » aux éditions Guy Jacob. Vous pourrez bien sûr, vous qui nous écoutez, poser vos questions si vous en avez concernant votre sommeil au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Figurez-vous qu'en matière de sommeil, les heures avant minuit comptent double. Alors, ça fait longtemps que je l'entends, on verra si c'est vrai. Mon invité s'appelle Clémence Peix-Lavalier, sophrologue de formation. Vous êtes spécialisée aujourd'hui dans la gestion du stress et du sommeil et vous avez écrit « Bien dormir sans médicaments » aux éditions Odile Jacob. Donc, il est toujours vrai, ce dicton, les heures avant minuit comptent double.
Alors, je vais garder les heures, les premières heures du sommeil comptent double. Je vais enlever avant minuit puisque maintenant, effectivement, on va se coucher plus tard. Mais les deux premiers cycles de sommeil, les deux premiers une heure et demie, comptent double. Pourquoi? Parce qu'il y a meilleure récupération physique. On va en sommeil lent, profond, très, très, très profond. Mmh. Et puis, au fur et à mesure de la nuit, la pression de sommeil va se lever. On va aller en sommeil moins profond pour aller rester en sommeil léger et augmenter, au contraire, le temps de sommeil paradoxal, celui qui permet de restituer l'identité, la psychologie avec les rêves.
Bien, donc ça veut dire que les premières heures du sommeil sont les plus réparatrices, ça
oui.
C'est vrai.
Ah, ça c'est vrai. Et ce qui fait que par exemple, toute la semaine, je vais m'endormir à 10h30, 11h du soir, ces deux premières heures vont être très importantes. Et si le week-end, je vais me coucher à 2h du matin parce que j'en ai profité, j'ai fait la fête, eh ben je vais zapper ces 2 heures de sommeil et je vais prendre le train en route et je vais avoir plutôt du sommeil, donc là, l'autre partie de la nuit, du sommeil léger, du sommeil de rêve. Et ce qui va faire que je vais pas me sentir, malgré que j'aurais fait ma grasse matinée, je vais pas me sentir vraiment complètement reposer.
0153483000. Là, on a Monica, alors c'est peut-être Monica Bellucci qui nous appelle, mais en tout cas, je sais qu'elle appelle Dermont. Monica, bonjour et bienvenue.
Très bien. Bonjour.
Bonjour Monica.
Bonjour Philippe. Ravi de vous avoir encore au téléphone. Bonjour madame.
Bonjour Monica.
Alors moi, je suis une couche tôt et une neuf. Non, oui, une couche tôt et une neuf tôt. J'ai toujours eu mes horaires de sommeil réguliers. Puisqu'on me dit que je ne fais pas encore mon âge, donc je pense que ça doit y contribuer. Par contre, ces derniers temps, comme je suis à un divorce, je me retrouve seule, donc je dors souvent avec la télé allumée sur le canapé et je ne me lève pas, donc je ne sais pas si c'est un sommeil profond ou pas.
Et comment vous vous levez au bout de combien de temps? Alors vous vous réveillez au bout de combien de temps?
Jusqu'au matin.
Ah, bon, vous avez juste changé de lit alors?
Je me lève, je suis du matin, donc ça ne me gêne pas de me lever à 6 heures, même quand je vais à un mariage.
Vous avez décidé de changer de lit alors? Changer complètement le lit, changer peut-être les draps, rafraîchissez votre chambre pour avoir le plaisir d'aller dans votre lit. Retrouver un cadre, un environnement dans votre chambre qui vous donne envie d'aller vous coucher. Et puis aussi, on le sait que le sommeil, la télévision est un peu hypnotique et puis fait passer le temps, hein, surtout quand on a un peu d'angoisse, on est après un choc émotionnel ou un petit vide existentiel, on va se retrouver à occuper son temps, à occuper son cerveau pour pas penser à des choses qu'on ne voudrait pas ruminer. Et voilà. Et donc je vous invite plutôt à changer l'environnement de votre chambre, à faire peut-être une petite séance de sophrologie pour calmer les angoisses et retrouver le plaisir d'aller dormir dans votre lit.
Mais est-ce que le cerveau débranche quand on dort devant la télévision?
En fin de compte, le cerveau va être hypnotisé et va passer dans l'ennui. On regarde plus vraiment la télévision, il nous berce, il comble, il sert là d'anxiolytique en fin de compte.
Mais il décroche, il n'est pas occupé par ce son, par cet environnement.
Alors, tout ce qui est son et environnement, effectivement, vont être perceptibles par le cerveau et va vous empêcher d'aller vraiment en sommeil lent, très profond. Donc, on va avoir une diminution de la qualité de sommeil. Mmh. Mais là, il a plutôt une première fonction d'anxiolytique. Ouais. Ce bruit de fond qu'on pourrait avoir, qu'on peut avoir aussi dans la journée, on laisse la radio ou la télévision allumée, juste pour pas se sentir seul, fait que on va d'abord se concentrer là sur l'anxiété, cette côté un petit peu angoissant de se retrouver seul. Et donc du coup on va travailler de ça et du coup ça va tout de suite basculer, on va revenir avec un plaisir de dormir et puis ça va être tranquille. Mais vous avez raison Philippe, avoir la télévision allumée dans la chambre empêche de dormir, avoir une bonne qualité de sommeil, avoir le téléphone portable allumé, on le sait, 50% des gens laissent leur téléphone portable allumé sur leur table de chevet, c'est comme si vous laissiez une fenêtre de votre cerveau ouverte pour avoir un signal extérieur. Or, la nuit, si je ferme mes volets, je suis plus disponible à l'extérieur et je reviens me ressourcer à l'intérieur.
Alors, la première chose que les gens font en se levant, c'est de regarder leur téléphone aujourd'hui.
Oui. Même, ils me disent tous. Ils me disent tous que...
Bravo. Ouais, c'est normal parce que vous avez la télé.
Oui, je suis pas de cette génération. Oui, non, mais c'est pas pour... parce que je suis anxieuse, mais bon, c'est vrai que ça, je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là. Et par contre, avec l'horaire qu'on a changé, je me lève quand même à mon ancienne heure. Donc, ça veut dire que je perds une heure.
Bah, vous vous couchez donc une heure plus tôt, puisque c'est l'heure... vous n'arrivez pas parce que vous regardez le programme télé, mais si vous écoutez
pas
votre corps...
Spécialement, je ne sais même pas ce qui se passe à la télé, mais bon... mais c'est vrai que cette heure-là, elle m'est indispensable quand même, mais je la perds, je n'arrive pas à faire que je dorme une heure de plus.
En général, au moment du changement d'horaire, alors le changement d'heure d'été est plus complexe que le changement d'heure à l'automne, mais le changement là qu'on a eu à l'automne fait qu'en 2-3 jours ça se cale, on va se réveiller plus tôt et on va se coucher du coup plus tôt. Mais le changement d'heure d'été, on est à 2 heures de décalage horaire par rapport au solaire et là le corps sent la différence. D'ailleurs, j'invite quand on va supprimer le changement d'horaire à bien se remettre sur l'heure d'hiver et pas sur l'heure d'été. Bien que ce soit plaisant d'aller traîner, de se coucher plus tard pour profiter des activités restaurants, spectacles, etc. Plus on s'éloigne de notre heure solaire, plus on dysfonctionne par rapport à la mélatonine et à notre rythme circadien. Et plus on va engendrer de maladies sous-jacentes. Donc, revenir...
Le bon rythme, c'est celui-là, c'est celui dans lequel nous sommes actuellement.
Exactement. On n'est qu'à une heure de l'heure du soleil, donc c'est le moins de décalage possible. Plus on s'éloigne de l'heure solaire, plus on devient, entre guillemets, on a un trouble du rythme circadien.
Merci Monica. Sarah est avec nous au 01 53 48 3000. Sarah, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Sarah.
Bonjour Sarah.
Voilà, moi j'ai un très très gros problème avec le sommeil en réalité, parce que depuis toujours, enfant, j'ai toujours été une très grosse dormeuse, donc j'ai vraiment besoin d'énormément d'heures de sommeil. Alors maintenant je suis maman de 2 enfants et c'est beaucoup plus compliqué. Les premières années de mes enfants ont été extrêmement compliquées pour moi avec les réveils nocturnes et compagnie. Bon, maintenant mes enfants sont un peu plus grands, donc ils ont 3 et 5 ans. Mais le problème reste le même pour moi, donc j'ai vraiment besoin de beaucoup beaucoup d'heures de sommeil et du coup je suis perdue parce que j'ai envie de faire beaucoup de choses à côté du fait de m'occuper de mes enfants. Bon, je travaille 3 jours par semaine, donc ça va, j'arrive à me réveiller ces 3 jours-là un peu plus tôt que les heures que l'heure à laquelle j'aimerais pouvoir me réveiller. Mais le reste de la semaine, mes enfants se réveillent en fait avant moi. Et je traîne toujours une demi-heure, une heure avant de pouvoir me lever, leur faire le nécessaire du petit déjeuner et compagnie. Donc, c'est extrêmement compliqué. Je ne sais pas du tout comment gérer ça. Alors, en fonction des jours, je me dis, bon, je vais dormir plus tôt. Comme ça, je me réveille à 5h, 6h et je fais tout ce que j'ai à faire à 1h. Ça ne marche pas. Ou alors, j'essaie de faire l'inverse, donc de veiller plus tard et de pouvoir... et ça ne marche pas non plus parce que j'ai besoin de 2 heures aussi bien début de la nuit que les dernières heures que les gens dorment normalement. Enfin, je suis complètement perdue, en fait, et je fais vraiment n'importe quoi. Et du coup, je suis très décalée dans tout ce que j'ai à faire, en fait.
Oui, on perd de la qualité de vigilance en journée, on dort moins bien la nuit, on a l'impression toujours d'être en bête de sommeil.
Ça me rend très irritable quand j'ai pas bien dormi. Je suis très, très irritable et c'est très, très compliqué, quoi.
Oui, bienvenue au club. Quand on dort, quand on n'a pas son content de sommeil, on est beaucoup plus irritable, ce qui permet à l'autre de pas venir trop nous demander d'énergie. C'est une façon inconsciente d'envoyer le message, viens pas trop me chercher, j'ai déjà du mal avec moi-même. Du coup, effectivement, vous avez raison.
Mais alors, quand vous dites, Sarah, que vous êtes une très grosse dormeuse, expliquez-nous combien quand même.
C'est le minimum vraiment pour que je sois bien, c'est 8 heures, quoi. Le minimum.
C'est une dormeuse normale. On a grosse dormeuse à partir de 9h. Donc 7-8 heures, c'est la moyenne normale pour les Français.
C'est pas 7 heures, c'est vraiment 8 heures. Pour que je sois bien,
très
c'est
bien.
8 heures.
Bah, vous êtes dans la norme, Sarah. Désolée pour vous.
D'accord.
Il va falloir prendre soin de ce sommeil. Effectivement, aussi, on peut le préciser, quand même à nos auditeurs, que quand on a des enfants, des nouveau-nés, on a un petit logiciel de vigilance qui se met en place et la maman devient beaucoup plus... à un sommeil profond, plus réduit, et un sommeil léger qui permet d'entendre même le nourrisson pleurer avant même qu'il n'ait ouvert la bouche. Elle le sent alors que le conjoint, lui, il dort et il ronfle confortablement. Notre jeune maman va avoir ce système de vigilance qui a permis à l'espèce humaine de survivre à ses nouveau-nés.
Quand vous expliquez qu'à bruit égal, le bébé il fait le même bruit pour les deux. Oui. Il y en a un qui ronfle et l'autre qui ronfle pas.
Oui, mais la maman est garant de la sécurité, de la protection du bébé, de le nourrir, de le prendre soin. Et donc, elle va effectivement avoir ce système de vigilance. Et on voit des jeunes mamans qui ont des grossesses rapprochées, qui perdent le sommeil parce que, effectivement, ce système de vigilance va être vraiment actif entre 3 et 6 mois. On dit souvent jusqu'à ce que l'enfant ait fait des bonnes nuits. Mmh. Il y a des mamans, on a des enfants, des jeunes enfants qui ne dorment pas bien, même les 3 premières années. C'est épuisant pour la maman. Et il suffit qu'elle ait 2 enfants ou 3 enfants. Pendant 6 mois, 6 ans, elle n'a pas bien dormi. Jusqu'au point où on ne sait plus comment bien dormir. Et là, on va rééduquer avec la sophrologie le corps et le cerveau à retrouver, 1, le plaisir du sommeil, 2, le lâcher prise qui est nécessaire pour bien dormir, et 3, protéger cet espace de sommeil. Donc, on dit vraiment que c'est une rééducation du corps et du cerveau sur le sommeil, mais un sommeil qui est programmé, qui est naturel. Il n'y a rien d'artificiel. Donc, il va falloir, Sarah, revenir sur vos...
Moi, j'aimerais quand même bien venir vous voir en consultation, parce que du coup, c'est vrai que je suis perdue dans l'organisation de mon sommeil. En effet, je ne vous ai pas écouté depuis le début, je ne sais pas à quelle heure...
Alors, vous avez un réseau de sophrologues spécialisés sommeil qui est sur le site bienrelax.com, avec un annuaire, avec tous les sophrologues qui ont fait des séminaires de perfectionnement sur le sommeil, qui permettent à la fois d'étudier l'hygiène du sommeil et de restaurer avec les sciences la capacité de retrouver le corps et le cerveau en symbiose, en harmonie, pour arriver à avoir un sommeil de qualité. Donc voilà, sur l'annuaire bienrelax.com, vous avez tous les sophrologues référencés qui sont spécialisés sur le sommeil. Et ça, c'est intéressant, parce que vous aurez vraiment quelqu'un de spécialisé. Oui, et près de chez vous, surtout.
Merci, Sarah, pour votre appel. C'est Carlos qui est avec nous. Carlos. Bonjour, Carlos.
Bonjour, Philippe. Bonjour, madame.
Bonjour, Carlos.
Vous avez fait votre nuit, Carlos?
Pardon?
Vous avez fait votre nuit, Carlos?
Oui.
Bon, parfait.
D'accord. Donc, alors moi, j'ai un sacré problème. Donc, je ne sais pas si c'est une maladie ou si c'est moi qui ai développé ça. En fait, je ne dors pas assez. Je dors une heure et demie maximum, et après je suis en train de regarder la télé, donc j'arrive pas à dormir. Après, je m'endors encore, je me suis dit peut-être je vais dormir, donc je dors. Quand je me réveille, j'ai dormi juste encore 20 minutes, 30 minutes. En fait, j'ai des micro-sommeils, et le gros problème, c'est que je dors encore au volant. Donc,
alors ça, ça c'est un gros problème si vous dormez au volant, oui.
Ouais, je dors au volant, Philippe, et le problème c'est que mon cerveau il s'éteint d'un coup, donc je me sens pas.
Ah, vous tombez.
Ah oui, d'un coup, il ferme, mais ça prend quoi? Ça prend 2-3 secondes, hein,
oui.
Maximum.
Alors, il y a plusieurs possibilités, et là, je vais vous inviter à vous rapprocher d'un centre du sommeil pour avoir un diagnostic médical. Parce qu'effectivement, toutes les somnolences en journée qui ne sont pas demandées, qui ne sont pas maîtrisées, c'est-à-dire, je suis au feu rouge, je m'endors, je m'installe au cinéma, je m'endors dès que je suis tranquille, je m'endors. Il y a vraiment une astuce. Voilà, la première chose qu'on va essayer, que le médecin va essayer de diagnostiquer, c'est l'apnée du sommeil. L'apnée du sommeil qui fait que toute la nuit, votre cerveau se réveille, même si vous avez l'impression de dormir, vous n'avez même plus l'impression de dormir parce que vous êtes vraiment réveillé régulièrement, ce qu'on appelle le sommeil étaché. Votre
étaché.
Apnée.
Et ah oui, haché.
Haché, oui. Coupé en morceaux, fractionné. Le sommeil, on appelle ça un sommeil fractionné, mais pas parce que vous avez décidé de faire un cycle et puis de vous réveiller, tout simplement parce que le cerveau est en souffrance, n'est pas assez bien oxygéné peut-être pendant la nuit. Maintenant, je ne suis pas médecin, donc je vais vous dire vraiment d'aller voir un spécialiste du sommeil. Le généraliste ne va pas suffire à ce moment-là.
Donc là,
vous demandez conseil à votre généraliste pour avoir l'adresse d'un spécialiste du sommeil qui va vous faire un test de polysomnographie ou de polygraphie respiratoire qui va permettre de déterminer factuellement le nombre d'apnées, c'est-à-dire ça peut être, vous pouvez respirer mais ne pas avoir une qualité de respiration suffisante pour bien oxygéner le cerveau, et ça fait ce qu'on appelle une accélération cardiaque parce que le cerveau va être en souffrance et ça va réveiller votre corps et votre cerveau régulièrement. C'est quelque chose de très fréquent, hein. C'est à partir de 45 ans, on peut avoir facilement 40% de la population qui est atteinte de ce syndrome, qui n'est pas assez diagnostiqué, qui n'est pas fait pas partie du
panel. En général, votre femme s'en rend compte ou c'est votre mari qui s'en rend compte?
Alors, surtout si on ronfle, ça il s'en rend compte.
Est-ce que vous ronflez, Carlos?
Non, pas, non, c'est quand je suis fatigué, oui.
Voilà. Ou alors, on peut aussi, parce qu'on se réveille en sursaut, avec une sensation d'étouffement, ou tout simplement transpire. Ou alors, un signe, c'est tout simplement, j'ai envie de faire pipi plusieurs fois dans la nuit. Ou alors, je me réveille le matin, j'ai mal à la tête. Je vais m'endormir dans journée, alors que je n'ai pas choisi de m'endormir. C'est tous ces symptômes qu'on peut voir en journée et en nuit, qui va permettre de diagnostiquer et vous amener obligatoirement à faire un test médical.
Alors, où on trouve un centre du sommeil?
Alors, dans le livre, j'ai référencé tous les centres du sommeil hospitaliers, les 12 centres hospitaliers, mais vous avez dans votre ville, forcément, probablement, je dirais même, un médecin du sommeil, c'est-à-dire un spécialiste. Ça peut être un ORL spécialisé du sommeil, ça peut être un cardiologue spécialisé du sommeil, un pneumologue spécialisé du sommeil. Là, on s'agit d'un domaine médical. La sophrologie va pouvoir peut-être vous apporter du confort après, quand on aura fait le diagnostic. Mais dans un premier temps, direct, je vais voir mon médecin traitant, je lui en parle et il me donne la bonne adresse.
Là, il faut y aller, Carlos, parce que effectivement, si vous vous endormez au volant, faut pas laisser traîner ça.
Hein. Et surtout, on sait que ça augmente le risque cardiovasculaire, le risque de diabète. Il y a vraiment, on abîme le fonctionnement de ces organes vitaux. Donc, on y va, on se pose pas de questions.
On le disait, bien dormir, c'est la moitié de la santé. On reviendra dans un instant. On prendra vos appels, bien sûr, mais j'aimerais qu'on parle un petit peu de ceux qui ont des horaires décalés. Vous êtes très nombreux à travailler en horaires décalés. Ceux qui travaillent la nuit et comment vous pouvez adapter, puisqu'on a parlé du cycle tout à l'heure, voir comment vous pouvez adapter votre cycle pour être dans la meilleure forme possible. 01 53 48 3000, vos appels dans un instant.
À votre santé, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre santé, avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Alors, on parle du sommeil avec mon invité aujourd'hui, Clémence Pelle-Avallée. Je rappelle que vous venez d'écrire « Bien dormir sans médicaments » chez Odile Jacob. Donc, c'est un livre d'exercices qui sont, écrivez-vous, des outils ultra efficaces pour la majorité des insomnies, excepté pour les syndromes d'apnée du sommeil. Donc, on a vu tout à l'heure avec Carlos. Les jambes sans repos. Alors, c'est quoi les jambes sans repos?
Les jambes sans repos, c'est qu'elles se mettent à bouger toutes seules pendant la nuit, ainsi que les impatiences. Les impatiences, c'est ces douleurs qu'on va avoir dans les jambes et qui fait que même on va avoir se lever pendant la nuit pour calmer la douleur. C'est surtout dans la première partie de la nuit.
Voilà. Et puis, vous avez, avec votre livre, un CD d'exercices. Donc, vous faites 20 minutes tous les soirs. C'est des exercices de sophro.
De rééducation du cerveau et du corps pour dormir, avoir un sommeil de qualité, de meilleure qualité.
Patientez un petit peu au standard. Je voudrais juste qu'on évoque la question des travailleurs de nuit. Eux, leur horloge biologique est complètement désynchronisée. Donc, comment on fait pour se recaler?
Comment on fait pour se recaler? Alors, pour se recaler quand? Quand on est à la retraite? Pour se recaler le week-end?
Quand on travaille la nuit. Parce que, ça m'a pas donné envie de travailler la nuit, votre...
Non.
Et de travailler
dans la médecine du travail, quelqu'un qui travaille la nuit est suivi spécifiquement par la médecine du travail parce que c'est un risque de cancer, de maladie qui est possible. On devient plus vulnérable à ça. Le fonctionnement immunitaire et cellulaire ne fonctionne plus bien. Il y a l'altération des gènes, hein, donc vraiment c'est très important à tenir compte. Les infirmières, par exemple, que j'accompagne et qui ont travaillé en horaire décalé, elles vont mettre entre 18 mois et 3 ans si elles prennent pas de 18 mois si elles prennent pas de somnifères, plus de 3 ans à 5 ans ou jamais si elles prennent un somnifère, pour pouvoir retrouver leur heure de sommeil, leur qualité de sommeil normale, après, une fois qu'elles ont arrêté de travailler en horaire décalé. Donc on voit que ça, l'horloge biologique et la capacité de retrouver un bon sommeil se détraquent plus facilement que de se remettre facilement en marche. On va voir aussi que y a un risque, bien sûr, de cancer, un risque de cardiovasculaire qui va être développé. Donc qu'est-ce qu'on va conseiller? On va déjà, quand on est en poste, on va conseiller, avec ses horaires décalés, le matin quand on quitte le travail, on va garder un peu des lunettes de soleil, on va pas trop s'exposer à la lumière parce qu'on va devoir dormir au moins 5 heures en rentrant chez soi.
Et c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est brutal, c'est le fait d'être dans une condition d'être fatigué et d'être face au jour, comme ça, exposé à la lumière.
Oui, parce que là, on va plus libérer cette mélatonine et donc on va pas synchroniser le corps et le cerveau.
Le cerveau a besoin de métaboliser de la mélatonine pour aller se coucher.
Exactement. On va mettre un petit peu de lunettes de soleil, on va mettre des bouchons d'oreilles aussi quand on va rentrer chez soi pour dormir, parce que sinon votre cerveau va capter, enfin on ne peut pas leurrer le cerveau, il sait bien qu'il fait jour, il va capter en plus les bruits environnants qui confondent dans l'idée que c'est jour, donc il va aller dans un sommeil moins profond. On va prendre un tout petit peu de glucides le matin, ça favorise le glucide, favorise l'endormissement. Alors que pour quelqu'un qui n'est pas en horaire décalé, qui a besoin de se réveiller le matin, au contraire, on va privilégier la protéine. La protéine est une molécule éveillante. Cette personne va dormir 5 heures en moyenne. En général, dans les statistiques, c'est 5 heures en moyenne le matin. Il va se réveiller, il va prendre son repas normal de déjeuner. Et là, il va refaire une sieste. Et là, il a le droit à une sieste royale. Alors que dans la vie de tous les jours, on n'a pas besoin d'une sieste royale. C'est 1h30. À double sieste royale, même 3 heures. Donc ça, c'est vraiment un cycle de sommeil complet pour récupérer. C'est très, très important. On va protéger ce sommeil réparateur, qui sera quand même moins réparateur que si on le faisait entre 3h et 5h du matin, mais qui sera quand même très très bénéfique pour le personne en travail posté.
Dormir le même nombre d'heures la journée, c'est moins réparateur que de le faire la nuit.
Oui, parce que votre cerveau sait bien que c'est pas la nuit et qu'il va pas optimiser à ce moment-là. Il faut savoir qu'entre 1h et 3h du matin, 5h du matin, vous avez une baisse de la tension artérielle, du rythme cardiaque, de tous les fonctionnements vitaux de votre corps qui est prévu par l'horloge biologique. Donc quand vous faites cette même espace de sommeil récupérateur en journée, la baisse va être moins profonde.
Youssef est avec nous au 01 53 48 3000. Youssef, bienvenue.
Oui, bonjour.
Bonjour Youssef.
Bonjour Youssef.
Bonjour Clémence, bonjour Philippe. Moi justement, je fais partie de ces gens-là qui travaillent la nuit. Donc je commence quasiment tous les matins à 3h. Et je finis aux alentours de 10, 11h, etc. Donc là par exemple, je suis encore au travail. J'ai commencé à 3h. Donc moi, justement, je dors pas beaucoup. Je dors tard le soir. Donc je vais dormir à partir de minuit, 1h du matin, pour me réveiller à 2h30.
Vous avez des nuits de rêve. Hein. Alors franchement, c'est des siestes.
Clairement, c'est des micro-siestes, je trouve.
Oui.
Et du coup, ensuite, je vais au travail. Et en rentrant du travail, là, je refais une sieste de 3h. Donc comme vous appelez ça, 2 cycles.
Oui. Ouais. On voit que ce que vous faites, c'est comme les navigateurs, c'est que vous faites du sommeil fractionné. Il faut compter votre temps de sommeil sur 24 heures et plus en fonction du jour et de la nuit. Donc pour les navigateurs, pour les personnes comme vous en travail vraiment hyper décalé, on appelle ça, vous fractionnez votre temps de sommeil en plusieurs siestes royales. Donc à chaque fois que vous faites un cycle complet, 1 heure, dites-vous, yes, ça c'est gagné. 1h30, vous avez fait un cycle complet, vous avez déjà levé la pression de fatigue et commencé à récupérer. Donc ça, c'est le côté positif, c'est que vous savez que vous pouvez fractionner votre temps de sommeil en 24 heures.
Mais là, on est sur 4h30, là, en 24 heures. C'est ça, Youssef ?
C'est ça.
Oui, donc là,
il y a peut-être une dette de sommeil, non ?
Oui, il y a une dette de sommeil parce que l'idéal, ce serait d'augmenter votre temps de récupération l'après-midi. Là, récupérer 5 heures. Alors peut-être en 2 fois 3 heures, peut-être en 3 heures, en 3 cycles complets, donc ça fait 4h30. Mais il faut augmenter votre temps de récupération en journée, alors que probablement, qu'est-ce qui vous empêche de dormir plus longtemps l'après-midi, dites-moi ?
Le bruit, la lumière, le bruit à la maison, etc.
Ouais, et on le sait, donc bouchons d'oreilles.
Peut-être aussi parfois l'envie de participer à la vie avec les autres aussi. Hein.
C'est ça, c'est surtout qu'en ayant cette vie de nuit, ça m'empêche d'avoir une vie un petit peu sociale, etc. Donc
absolument.
Je me force un petit peu à me lever tôt pour pouvoir profiter, sauf que quand je sors, je ne profite pas réellement vu que je suis très fatigué. Etc.
Bah oui, vous êtes décalqué, oui, oui.
Ensuite, c'est ça, et le week-end, là je fais des vrais grasses maths. Le samedi, étant donné que je suis habitué à me lever très tôt, je me lève très tôt, donc 4-5 heures du matin le samedi, et après je me rendors.
Oui.
Et le dimanche, par contre, je dors jusqu'à 11 heures, midi, voire 13 heures. Par contre, le lundi, c'est extrêmement dur.
Bah oui. Donc voilà.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait,
ça fait un jet lag social.
Voilà, c'est
là,
comme c'est si vous étiez à New York.
Oui. Bon. Donc là, vous allez essayer de travailler sur l'espace. Je sais bien que ça, voilà, il y a toujours cet enjeu de dire, je veux profiter des enfants ou de la vie, ou je veux quand même un peu faire quelque chose de ma journée. Malheureusement, la performance, elle se fait là en nuit et au petit matin. Donc le seul espace de récupération qui vous reste disponible, c'est l'après-midi, au moins jusqu'à 18-19 heures, de pouvoir dormir dans cet espace-là. Ou alors d'arrêter vers 18 heures, mais de vous recoucher vers 21h30. C'est pas très sexy ce que je vous propose, je suis désolée. Vous êtes dans le cas extrême.
Surtout quand on se couche à minuit, 21h30, bah ouais. La punition.
Mais oui, mais c'est ce que vont faire par exemple les chroniqueurs radio, hein, qui se lèvent à 4h du matin, ils se couchent à 21h30, ils n'ont plus de vie sociale. C'est pas dans une phase de travail très très sexy ce que je... Et là, ma réponse ne peut pas être très intéressante dans le sens amusante, plaisir de qualité de vie. Voilà,
c'est une réponse santé là.
Oui, c'est une réponse santé. Il va falloir optimiser la récupération en journée. N'oubliez pas bouchon d'oreille, n'oubliez pas
masque
absolument comme dans les avions sur les yeux. Et deuxième petit truc aussi que je vais vous donner, troisième petit truc, c'est température fraîche dans la chambre, parce que pendant la nuit la température descend, et ça on n'en a pas parlé, mais c'est un facteur qui favorise un sommeil de qualité. Donc la température,
alors,
là,
vous dites, c'est à 27 degrés qu'il faut que le corps soit...
À l'extérieur,
voilà,
parce que l'intérieur, il reste à 37. Et il va descendre à 36 pendant la nuit.
D'accord.
Donc, du coup, on a un environnement autour de soi de 27 degrés. Donc, ça ne veut pas dire que votre chambre doit faire 27 degrés.
27 degrés, c'est-à-dire avec la couverture, c'est
oui,
ça?
Oui. Non,
c'est l'espace dans lequel on est.
10 cm autour de soi, ça fait un petit halo de 27 degrés parce que votre température corporelle dégage de la température. Donc, ça veut dire que votre chambre, elle doit être à 16, 17, 18 degrés.
Oh.
Or, vous avez vu, c'est difficile en journée d'avoir une température fraîche dans la chambre.
Ouais, vous êtes folle.
Et pourtant, c'est ça.
16 degrés.
Mais la nuit.
Mais vous êtes pour tuer l'amour, vous.
Ah, non,
vous êtes pour dormir avec des chaussettes.
Mais justement, on est vachement bien sous la couette, sous la couverture. Au contraire, ça devient tout moelleux, tout caillet. Et là, on va pouvoir dormir, se sentant en sécurité, enveloppé. Donc, petit truc quand même pour vous dans l'après-midi, comme la température de la pièce est plus chaude. Essayez de bien la rafraîchir, faire un petit espace de ventilation en ouvrant deux fenêtres ou en ouvrant une porte, une fenêtre,
ouais,
pour que ce soit bien frais. Ça va favoriser un sommeil plus profond, réparateur. Vous avez besoin que votre température corporelle descende pour dormir. Ça, c'est un secret naturel pour favoriser le sommeil. La température, on ne s'endort que sur une température corporelle qui descend.
D'accord. J'aurais juste une petite question, une dernière question.
Allez-y, Youssef.
Justement, par rapport à conseil qu'on m'avait donné, je pense pouvoir dormir un peu plus l'après-midi, ça y a pas de souci. Par contre, dormir à partir de 21h, c'est, je vous le dis, c'est quasiment impossible pour moi. Je n'y arriverai pas, donc je m'endors à chaque fois vers minuit. Même si j'essaie de dormir plus tôt, je n'y arrive pas, je ferme pas les yeux. Donc du coup, je voulais juste savoir quels sont les risques sur le long terme de ces cycles de nuit.
La première chose, c'est d'abord une irritabilité, un problème de concentration, un problème de vigilance, un problème de mémoire. On va avoir des troubles de la mémoire, ça c'est dans le court terme. Et dans le un peu plus moyen terme, on va avoir des troubles cardiovasculaires qui vont augmenter, on va avoir des risques de maladie.
On peut avoir.
Ouais, enfin,
oui,
voilà. Et puis on va avoir aussi un trouble de la leptine et la ghréline, les hormones de satiété et de faim, qui vous disent que, voilà, qui va réguler votre appétit et votre capacité de sentir que vous êtes calé. Et donc, vous allez avoir une augmentation de la prise alimentaire, avec une possibilité de troubles de diabète et d'obésité. Donc on voit très très bien que souvent on a une masse grasse qui s'installe autour du ventre. Alors ça, c'est autant pour les personnes qui dorment moins que leurs besoins que pour les personnes qui sont en trouble du rythme circadien.
Les gens qui travaillent la nuit le savent, quand on travaille la nuit, on prend du poids.
Oui, oui.
C'est ça.
Et même si on mange rien, enfin entre guillemets,
même si on a l'impression de rien manger, on prend du poids.
Et les personnes qui ne sont pas dans leur content de sommeil prennent du poids aussi alors qu'elles font un régime. Ça, je voudrais le dire à toutes les personnes qui, malgré un régime, n'arrivent pas à perdre du poids. On le sait, si on dort moins de 6 heures par nuit, 5 heures par nuit, on va consommer sans s'en rendre compte 600 calories de plus le lendemain, en gras et en sucré qu'on va stocker, qu'on ne va pas manger. Une heure de moins de sommeil vous fait consommer 200 kilocalories de plus le lendemain sans vous en rendre compte. Et vous allez le stocker en énergie puisque vous êtes en baisse d'énergie. Et vous allez stocker. Donc, ce n'est pas de l'alimentation qui va être transformée pour être produite tout de suite. Ça va être de l'alimentation qui va être transformée pour stocker. Ça fait mal à la ceinture.
Bien. Youssef,
C'est de ça que je parlais avec mes amis. C'est que je comprenais pas, je mange pas beaucoup et pourtant j'ai pris quasiment 10 kilos, donc je comprenais pas d'où ça venait.
Ouais, la moyenne, c'est à peu près, c'est le minimum, c'est 6 kilos, ça a été étudié. On prend facilement 6 kilos sans s'en rendre compte.
Ouais, enfin, moi, ça sans pouvoir. Ça fait 3 ans que je travaille de nuit, donc.
C'est le chronotype qui est déréglé, hein, si vous avez pris l'émission au début, c'est ça, hein,
vous êtes, ouais, vous êtes c'est pas... chronotype, vous êtes pas dans votre chronotype et puis vous avez pas votre besoin, votre content de sommeil. Bon, c'est une phase de vie, mais vous inquiétez pas, après tout revient dans l'ordre.
À la retraite.
Ou en changeant de travail. Mais bon, c'est des ça. Phases de vie de performance. Vous êtes dans une phase de vie de performance. Et voilà, c'est ce qu'il faut dédier. Votre temps, malheureusement, est concentré sur ce temps de travail en horaire décalé.
Merci, Youssef. Et bon boulot.
Bon courage, ouais.
On l'a vu, hein, c'est important de trouver son chronotype pour optimiser ses résultats. Vous trouvez toutes les informations dans le livre. Montrez-le à la caméra, puisque l'émission est filmée. Vous pourrez la voir sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Bien maigrir sans médicaments.
Ah non, bien dormir.
Bien dormir.
Mais bien maigrir viendra peut-être.
Bien dormir sans médicaments. Enfin, je dors aux éditions Audi Jacob. On a traité, allez, un tiers, même pas quand je dis un tiers, un dixième des sujets. Ouais. Votre livre est passionnant. Merci et pardon à tous ceux qu'on n'a pas pu prendre. Vous reviendrez?
Oui, Philippe, je reviendrai avec plaisir aussi.
Et demain, battle de punchline avec l'équipe de Steve Abdelkarim. Si vous avez une punchline, eh ben venez vous battre avec nous. Rendez-vous demain entre 9h et 10h.
À votre santé, reviens dans un instant.